Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie. C'est le 340e numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Cette seconde quinzaine de janvier nous offre un agenda d'événements très dense, et ce dans tous les genres musicaux. Opéra, musique de chambre, musique chorale, guitare et voix, il va y en avoir vraiment pour tous les goûts d'ici notre prochaine émission. Dans ce foisonnement, je tiens à rappeler que la création française de La Passagère, l'opéra de Mieczysław Weinberg, a lieu à l'Opéra National du Capitole du 23 au 29 janvier, une production que nous a présentée Robert Pénavert la semaine dernière. Il reste encore des places pour la découvrir, mais il faut vous dépêcher si vous voulez avoir la vôtre. Quant à la présente émission, pour l'animer avec moi, j'ai la chance de pouvoir compter une nouvelle fois sur Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Nous avons tous les deux du pain sur la planche, alors nous allons commencer sans plus attendre en revenant comme d'habitude sur l'actualité musicale la plus récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue Serge, merci d'être encore au rendez-vous de Mélomanie.
Dis avec plaisir.
Et je vous propose de revenir d'abord sur le concert que l'Orchestre National du Capitole a donné jeudi dernier à la Halle aux Grains. Il était dirigé à cette occasion par le chef allemand Markus Pochner, dont c'était la première à Toulouse. Oui. Le violoniste américain Chad Hoops était lui de retour aux côtés de notre ensemble symphonique pour jouer le concerto pour violon numéro 2 de Félix Mendelssohn. Comment se sont passées la première de l'un et le retour de l'autre lors de ce concert qui a débuté par la création française d'une œuvre d'une compositrice lituanienne?
Oui, une compositrice dont je me hasarde à prononcer le nom, Raminta Cherskniete. Bon, donc c'est une compositrice qui a la cinquantaine, qui était présente lors de la création française de son œuvre, une œuvre qui s'intitule « Midsummer Song » ou « Chant du soliste d'été ». C'était donc la création française de cette œuvre. Et c'était une œuvre intéressante, construite en arche, qui émerge très lentement du silence pour y revenir après un grand crescendo, très poétique, avec des couleurs, des thèmes et des harmonies qui évolue dans une fluidité vraiment remarquable. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à La Nuit Transfigurée d'Arnold Schoenberg. C'est une œuvre composée comme La Nuit Transfigurée pour un ensemble à cordes. Donc, c'était toutes les cordes de l'orchestre du Capitole, évidemment. J'ai l'impression que chaque pupitre vraiment a donné le mieux, le meilleur, hein, sous une direction à la fois stimulante du chef. Et donc, c'est un grand silence du public qui a prolongé le pianissimo final, et le public a très bien accueilli à la fois l'œuvre et la compositrice, puisqu'elle est venue saluer et elle a été vraiment très chaleureusement applaudie. Ensuite, le contraste était fort, hein, puisque nous avons entendu l'un des grands concertos du romantisme germanique joué par Chad Hoops, dont je signale que c'était la quatrième participation à un concert toulousain. C'est quelqu'un que l'on connaît depuis son adolescence, puisqu'il est venu très jeune pour son premier concert. Et donc, c'était vraiment intéressant de le voir et en même temps de voir son évolution. Et son évolution, elle est certaine, hein. Il a à la fois une sonorité et un style très affirmé, et il joue ce concerto de Mendelssohn avec une intensité qui n'est pas toujours le cas des solistes qui abordent ce concerto, avec l'animation vibrante de l'allegro initial, avec une cadence. Alors, la cadence de ce concerto était offerte par Mendelssohn à son soliste de l'époque qui s'appelait Ferdinand David. Et là, elle a été vraiment transcendée par Chad Hoops, qui lui a conféré une sorte de grandeur épique. C'était impressionnant. Puis avec un andante qui s'enchaîne, vous savez, les trois mouvements s'enchaînent dans ce concerto, et donc avec une impression de chant nostalgique, et puis un final qui éclate, alors vraiment comme une libération, pleine de luminosité. Donc c'était vraiment très très beau, très très bien, à la fois de la part du chef et de la part du violoniste qui était vraiment en accord parfait. Il y avait à la fois sur le plan sonore, l'un ne cachait pas les nuances de l'autre, donc c'était vraiment très très bien. Il a été très applaudi, évidemment, et Tchadoub s'est revenu donner un bis. Alors, d'un tout autre style musical, puisqu'il s'agissait de musique baroque, il a joué la fantaisie numéro 10 de Georg Philipp Telemann, qu'il a déclamé avec un sens vraiment très musical, donc très beau. Et puis enfin, la seconde partie du concert, alors, était consacrée à l'une des grandes symphonies romantiques, la dernière symphonie écrite par Brahms, la symphonie numéro 4, donc en mi mineur. Alors là, le chef a dirigé sans partition, ce qui est relativement courant pour une œuvre si jouée. Et vraiment, il s'est investi avec une grande ferveur et avec une gestique particulièrement expressive. Donc c'était une direction passionnée et qui a obtenu vraiment de l'orchestre un déploiement plein de relief, avec une grande opulence lyrique généreuse dès le premier mouvement. La gamme des nuances dynamiques n'a pas de limite. Vraiment, il fait jouer l'orchestre presque au bord du silence, jusqu'à l'explosion, et une direction passionnée, donc très belle, avec un élan rythmique dans l'allegro non troppo et pizzicati, donc très mesuré. Et puis enfin, avec le court scherzo, après le court scherzo, tout cela a débouché sur... Alors, l'architecture du dernier mouvement, parce que c'est très particulier, c'est un mouvement à variation. C'est vraiment un mouvement classique dans sa forme, en quelque sorte, mais énergique par le tempérament qu'elle développe. C'était vraiment un beau moment. Et l'apothéose finale, puisque c'est une apothéose qui termine cette symphonie, a recueilli encore une grande ovation. Et on a pu voir la manière dont le chef a salué. D'abord, il a félicité un à un tous les solistes et les pupitres de l'orchestre, et les musiciens l'ont applaudi et lui ont adressé leurs remerciements chaleureux, ce qui dénote que le courant est passé entre le chef et l'orchestre, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas des chefs invités, mais dans ce cas, ça a été vraiment très positif.
Voilà, donc début toulousain réussi pour Marcus Pochner. Quant à Chad Hoops, lui, il a donc joué le concerto pour violon numéro 2 de Mendelssohn, jeudi à la Lohengrin. Nous allons avoir le plaisir de le réécouter dans le magnifique premier mouvement Allegro Molto Appassionato de cette œuvre, dont on ne se lasse jamais. Il s'agit d'un extrait d'un concert dirigé par Tarmo Peltokoski. Thank you. Chad Hoops dans le premier mouvement Allegro Molto Appassionato du concerto pour violon numéro 2 de Mendelssohn sous la direction de Tarmo Peltokoski. Le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole a lieu samedi 24 janvier à 18h. Jean-François Zigel va y parler de son ami Chostakovitch lundi 19 janvier. Les musiciens des Clés de Saint-Pierre, qui sont pour la plupart des musiciens de l'Orchestre National du Capitole, étaient en concert à Saint-Pierre-des-Cuisines. Ils donnaient un programme de trio pour piano sous-titré à la mémoire d'un grand artiste. Serge, vous y avez assisté, vous allez donc pouvoir nous rappeler qui étaient les trois membres du trio qui s'est produit ce soir-là et quelles œuvres ils ont jouées. Mais avant, je voudrais que vous disiez un mot, parce que vous avez, le public a pu faire la connaissance oui. de la nouvelle présidente des Clés de Saint-Pierre.
Exactement. Dès le début de la soirée, nous avons fait la connaissance de la nouvelle présidente qui s'appelle Marie Grégoire. Ce nom, évidemment, nous dit quelque chose puisque c'était l'épouse de Laurent Grégoire, décédé prématurément l'année dernière après une action stimulante qu'il a menée au sein de cette institution. Donc, pour ma part, et je crois pour la part de tous les membres du public, on était très heureux que ce soit l'épouse, la veuve de Laurent Grégoire qui prenne la suite. Et bon,
qui est elle-même musicienne, pianiste.
Voilà, qui est musicienne.
Et je donc, pense, je suis d'accord pour dire que c'est un excellent choix.
Absolument, c'est vraiment un excellent choix. Et donc, elle a présenté le concert. À la suite, donc, eh bien, nous avons accueilli les trois musiciens qui se partageaient la soirée. Il y avait le violoniste Vitali Raskassov, la violoncelliste Aurore Dasses. Alors tous les deux sont très bien connus, ils occupent des places importantes au sein de l'Orchestre National du Capitole, et ils étaient rejoints par le pianiste Tom Grimaud, excellent pianiste, qui vraiment s'est associé aux deux membres habitués à jouer ensemble, mais comme s'ils avaient joué depuis des décennies. Donc c'était vraiment un très beau programme, et pour lequel Vitali Raskassov a présenté les œuvres, deux œuvres abordées qui ont été écrites à la même époque, 1880 et 1882, donc deux ans qui les séparent. Il s'agit du trio pour piano, violon et violoncelle de Debussy et le trio également pour piano, violon et violoncelle de Tchaïkovski. Mais si la première œuvre de Debussy est une œuvre d'un tout jeune homme,
oui, il a 18 ans.
18 ans qui débutait, celle de Tchaïkovski est au contraire l'œuvre de quelqu'un qui a déjà écrit toutes ses symphonies.
Compositeur donc, dans la maturité.
Voilà, la pleine maturité. Et donc, nous avons eu le droit d'abord à observer, à admirer la clarté, la subtilité du jeune Debussy dans ce trio, et puis surtout à admirer les qualités incroyables de ce trio qui sont d'une précision et d'une cohésion extrême. Le dosage de chaque sonorité instrumentale est parfait. On a l'impression chaque fois qu'on écoute une discussion entre amis, et c'était vraiment très très beau. Alors l'œuvre de Debussy, c'est à la fois une transition vers l'esthétique impressionniste qui n'a pas encore atteint tout à fait son but, mais c'était un beau moment avec, notamment dans l'andantino initial de ce trio, on avait l'impression d'entendre du Fauré, et du Fauré dans une mélodie. Donc on avait l'impression que les cordes chantaient autant qu'une voix humaine. Donc c'était un très beau moment avec des échanges joyeux dans le scherzo. Et puis alors pour l'andante expressivo de ce trio de Debussy, l'ouverture est un chant du violoncelle, un thème du violoncelle magnifiquement joué par Aurore Dasses, dont on connaît le talent évidemment. Et puis avec un final à la fois vif, juvénile et passionné, comme son nom l'indique. Donc là, une découverte, j'avoue, pour ma part. Ce n'est pas une œuvre très souvent jouée de Debussy. Et elle était suivie, alors, là le contraste était très fort, par ce trio de Tchaïkovski, composé par Tchaïkovski en hommage à son mentor, en quelque sorte, hein, Nikolaï Rubinstein, qui était à la fois pédagogue, pianiste et compositeur. C'est pour cela que, finalement, il a voulu lui rendre hommage. Et donc, il a écrit ce trio pour lui.
À la mémoire d'un grand artiste.
À la mémoire d'un grand artiste. Et c'est le titre que les musiciens ont choisi pour l'ensemble du programme. Alors, les durées sont très différentes. L'œuvre de Debussy est courte. Hein, elle fait à peine 20 minutes. Celle de Tchaïkovski fait le double. Hein. Alors, l'œuvre de Tchaïkovski, elle comprend deux volets très différents l'un de l'autre. Le premier, qui débute par une élégie, d'ailleurs, ça s'appelle Pezzo Elegiaco. Alors là, c'était d'une profondeur, à la fois d'une poésie et puis d'une révolte, d'une peine exprimée dans ce mouvement, avec les rôles répartis entre les différents instruments. On avait l'impression que le piano jouait le rôle du destin. Dans ce premier mouvement, les cordes se lamentent en quelque sorte. Hein. C'était vraiment et joué, mais sans exagérer non plus, hein, par les musiciens.
Sans pathos.
Non, sans pathos absolument. Et donc, cette première partie était vraiment très émouvante. Et la deuxième partie, c'est un tema con variazioni, avec le piano qui commence, qui énonce le thème, avec un certain détachement. Et puis la vie, on a l'impression qu'elle reprend ses droits, avec des alternances dans la succession, tout à fait contrastées, avec certaines variations très légères, très, très douces, et d'autres très profondes et très, très attristées, en quelque sorte. Avec un final qui est une véritable explosion. Mais là, il y a le retour de l'élégie, du premier mouvement, qui finit par donner le ton général à l'œuvre, qui est vraiment d'une grande tristesse, d'une tragédie. Vraiment un très beau moment là aussi, qui a été très applaudi. Les musiciens sont revenus et ils ont simplement redonné le début du final de ce trio de Tchaïkovski. Mais ça a été vraiment très applaudi par un public de l'auditorium qui remplissait l'auditorium.
Oui, c'était plein.
Ah, c'était absolument plein. Donc ça a eu un très grand succès, complètement mérité.
Et pour conclure ce retour sur le concert des Clés de Saint-Pierre du 19 janvier, je vous propose d'écouter un extrait du trio pour piano de Claude Debussy, assez rarement joué en concert, comme le disait Serge Chosy. C'est une version interprétée par Bertrand Chamaillot, Renaud Capuçon et Edgar Moreau. Trio pour piano de Claude Debussy dans une interprétation de Bertrand Chamaillot, Renaud Capuçon et Edgar Moreau. Fin de ce retour arrière, une petite virgule musicale avant de nous retrouver dans quelques secondes en compagnie de Serge Chosy pour la rubrique Agenda de cette émission. A tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Et nous ouvrons notre agenda de la semaine avec deux concerts ayant lieu samedi 24 janvier, le premier à 18h à la Halle aux Grains. C'est un des rendez-vous du cycle que propose chaque saison Jean-François Zigel avec l'Orchestre National du Capitole. Et cette fois-ci, Serge, il rend hommage à son ami Shosta, comprendre Shostakovitch, dont j'ignorais qu'il fut un intime.
Eh oui, peut-être. Intellectuellement, c'est probablement vrai. Alors, je ne pense pas qu'il l'ait beaucoup rencontré.
Non, mais... ça, je ne crois pas non plus, mais en tout cas, il dit bien que c'est un de ses compositeurs favoris.
Voilà, et alors, il sera présent avec l'Orchestre National du Capitole, qui sera dirigé pour l'occasion par Sébastien Zinka. Alors, dans cette prestation, donc, il va évoquer à la fois les concertos, les quatuors, les sonates, les symphonies. N'oublions pas qu'il a composé 15 symphonies.
Oui.
Et 15 quatuors à cordes, d'ailleurs, le même nombre.
Même les musiques de films seront évoquées.
Absolument, les musiques de films. Donc, c'est une personnalité à la fois puissante, théâtrale, ironique par moments, et tourmentée, et qui ne laisse personne de marbre, évidemment. Et donc, Jean-François Zigel propose un dialogue personnel et intime, dit-il, avec cet héritier, c'est lui qui le déclare, de Beethoven, Bach et Moussorgsky.
Oui, alors lui, il sera au piano.
Oui,
il est présent au piano. Il ne se contente pas que de commenter
non.
Et de présenter les œuvres. Et puis, c'est lui qui a conçu tout le programme selon le tour d'horizon qu'il veut faire de toute l'œuvre de Shostakovitch, qui est très vaste, comme vous le rappeliez,
oui,
parce qu'on connaît bien sûr ses symphonies, mais sa musique de chambre aussi.
C'est une partie très importante de
l'œuvre générale de Shostakovitch. Et
tout
puis, les musiques de films sont peut-être moins connues des mélomanes.
Oui.
Un peu plus des cinéphiles, mais ça mérite aussi évidemment d'être mis en avant. Alors nous, l'Orchestre National du Capitole a souvent joué la musique de Shostakovitch, notamment ses symphonies à l'époque où Tougan Sokiev le dirigeait, et ça nous permet d'écouter maintenant un extrait de la 7e symphonie, dite Leningrad, sous la baguette de l'ex-directeur artistique de l'Orchestre Toulousain.
Thank you.
extrait de la 7e symphonie Leningrad de Dimitri Shostakovich, enregistrée lors d'un concert de l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Tougan Sokiev. Samedi 24 janvier, les musiciens de notre ensemble symphonique sont aux côtés de Jean-François Zigel à 18h à la Halle au Grain pour un programme dédié aux grands compositeurs soviétiques. Et puis donc le même jour, mais à 20h, la maîtrise de Toulouse, sous la direction de son directeur artistique Marc Hopstadt, donne un concert à Saint-Pierre-des-Cuisines. Le programme est sous-titré Songbook. Serge, que va-t-on entendre lors de cette soirée dont l'entrée est libre sur réservation, sachant qu'il semble hélas que ce soit déjà complet?
Mais oui, bien sûr, la maîtrise attire très légitimement un grand public. C'est une qualité qu'il faut souligner chaque fois. Donc ce qu'a fait Marc Hopstadt là, c'est vraiment une merveille. Bon, il est issu du pays des maîtrises. Hein. L'Angleterre était vraiment un pays où elle prospère.
Mais il a repris, je ne vais pas dire bêtise, il a même créé la maîtrise de Toulouse.
Il l'a créé, absolument.
Parce que, avant, on parlait de maîtrise du conservatoire. Aujourd'hui, on parle de maîtrise de Toulouse, même si elle est reliée, bien sûr, au conservatoire, à rayon régional de Toulouse. En 2006, donc c'est les 20 ans, hein, 2026,
mais
ce sont
oui,
les 20
déjà,
ans de maîtrise.
Déjà, exactement. Et alors, au cours de ce concert, Songbook, il a qualifié ça de chanson classique et de chanson pop. Alors, chanson classique, il y aura des œuvres de Gibbons, Purcell, Wood et Fauré, notre Gabriel Fauré, oui, à Paméen. Et puis, chanson pop du Real Group.
Voilà. C'est un groupe suédois de jazz a cappella, j'ai vu.
Voilà. Bon, donc, ça sera...
C'est très éclectique, tout de même.
Ah, complètement.
Parce qu'on
oui,
parle
oui,
de Purcell,
oui.
On passe par Fauré, Gibbons, Wood, et puis donc la pop.
Voilà, donc, très bien. Voilà ce à quoi il faut s'attendre pour ce samedi 24 janvier, donc à 20h. À Saint-Pierre-des-Cuisines.
Vous parliez de la qualité de cet ensemble de la maîtrise, oui. Mais on voit aussi que le répertoire est très large.
Ah, mais oui.
Qu'ils sont capables d'exceller dans tous les domaines, dans tous les registres.
Exactement.
Alors, il y a du Gabriel Fauré au programme du concert de la maîtrise de Toulouse ce samedi 24 janvier. Je ne sais pas si le cantique de Jean Racine en fait partie, mais c'est la pièce que nous allons écouter. Vous allez y entendre les voix superbes de cet excellent ensemble, redisons-le, dirigé par Marc Hopstadt et accompagné ici à l'orgue par Michel Bouvard. Le cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré, chanté par la maîtrise de Toulouse sous la direction de Marc Hochstadt et accompagné à l'orgue par Michel Bouvard. C'était lors d'un enregistrement à la Basilique Saint-Sernin. Je n'ai pas eu le cœur de couper cette œuvre splendide composée par Gabriel Fauré à 19 ans. Il avait 19 ans, on parlait de Debussy tout à l'heure pour son trio pour piano qu'il avait composé à l'âge de 18 ans. Ben, c'est aussi une œuvre de jeunesse et on voit déjà la maîtrise de ce merveilleux compositeur qu'est Gabriel Fauré. Donc pour parler de maîtrise, la maîtrise de Toulouse est en concert à Saint-Pierre-des-Cuisines ce samedi 24 janvier à 20h. Concert annoncé malheureusement déjà complet et nous restons à Saint-Pierre-des-Cuisines le lendemain, le dimanche 25 janvier à 17h pour le troisième concert de la saison 25-26 de Toulouse Guitare. Il y a une très belle affiche, Serge.
Et oui, une affiche en duo cette fois, puisque nous aurons donc comme guitariste Gabriel Bianco et il sera en compagnie de Marina Viotti, grande mezzo-soprano, qui n'est pas qu'une grande mezzo-soprano, elle a été quand même artiste lyrique de l'année aux Victoires de la Musique en 2022, ce qui prouve un peu son niveau, mais elle s'essaie aussi au jazz, au gospel, au heavy metal, oui. Et donc vraiment, elle rayonne dans tous les domaines musicaux et elle n'a aucune prévention, donc c'est très bien. Voilà, donc elle sera là avec ce guitariste dans un programme extrêmement vaste.
Alors nous allons parler du programme. Alors, je voulais préciser concernant Gabriel Bianco qu'il a été, je ne sais pas s'il est toujours, membre du quatuor Eclis.
Exactement.
Qui est un quatuor de guitaristes.
Absolument.
Que nous avions entendu, si ma mémoire est bonne, dans la saison Toulouse Guitare il y a quelques années, que connaît très bien Thibaut Garcia, je pense qu'ils sont à peu près de la même génération. Et c'est un très très bon musicien. Et concernant Marina Viotti, on l'a déjà entendue à Toulouse cet été lors du festival de Toulouse où elle avait présenté son cabaret Viotti, quelque chose d'incroyable parce que bon, c'est une merveilleuse chanteuse, Serge vous l'a dit, mais c'est aussi une comédienne. Oui. Elle a un tempérament extraordinaire, elle est artiste protéiforme qui avait chanté avec le groupe de métal Gojira lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Ils avaient eu d'ailleurs un Grammy Awards pour leur prestation ce jour-là. Elle revendique complètement son image de métalleuse, sachant qu'elle vient vraiment d'un milieu classique. Hein. C'est la fille d'un grand chef d'orchestre et c'est la sœur d'un autre chef d'orchestre, Lorenzo Viotti, qui vient d'être nommé il y a quelques semaines directeur artistique de l'Opéra de Zurich. Donc vous voyez un peu la famille, bah, elle chante aussi du métal. Alors je vais vous proposer un premier aperçu du programme franco-espagnol que donne le duo Marina Viotti-Gabriel Bianco le dimanche 25 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines. Serge vous présentera ensuite le reste du programme. Voici pour commencer leur version d'une des 7 chansons populaires espagnoles de Manuel de Falla, Asturiana. Thank you. Asturiana, extrait des 7 chansons populaires espagnoles des Manuel de Falla, chantées par Marina Viotti, accompagnée à la guitare par Gabriel Bianco. Serge, quelles sont donc les autres pièces au programme de leur concert du dimanche 25 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines ?
Eh bien, il y a d'abord des noms bien connus du domaine classique avec Gabriel Fauré, Jules Massenet, Éric Satie, il y aura sa gnossienne, je suppose, jouer simplement la guitare, et donc Manuel de Falla, Gioachino Rossini, mais il y a également Léo Ferré avec La vie d'artiste, il y a également Jacques Brel avec la chanson des vieux amants.
Ah bah oui.
Alors, en général, tout cela est harmonisé par le guitariste Gabriel Bianco qui l'accompagne, et il y aura même une mélodie de Pauline Viardot. Donc, vous voyez, c'est très ouvert.
Oui, je crois qu'il y a de la bossa nova aussi. Si...
Oui, vraisemblablement.
Le Buena Vista Social Club. C'est ce qui est annoncé. Je ne sais pas s'il y aura dans ce programme, parce qu'on a parfois des surprises par rapport à ce qui est annoncé et ce qui est effectivement joué. Mais bon, ça donne une idée de l'extraordinaire éclectisme de ce duo et de cette chanteuse.
Oui, oui. Et puis également, comme chaque concert de Toulouse Guitare, la première partie sera assurée par de jeunes étudiants.
Bien sûr.
Qui, en l'occurrence, s'appellent Victor Meignier et Théo Vidal, deux guitaristes de 23 ans qui collaborent vraiment ensemble depuis longtemps, actuellement étudiants en deuxième année à l'Institut supérieur des arts de Toulouse, et ils vont jouer du César Franck essentiellement, transcrit par Matania Orphée. Donc il y aura en ouverture de cette fin d'après-midi dominicale, il y aura cette prestation des deux jeunes étudiants, ce qui est une très belle
initiative. Selon la tradition de Toulouse Guitare, et cette fois-ci on aura un duo, parce qu'en général c'est plutôt un ou une guitariste seule qui se produit. Là nous aurons un duo avec du César Franck. Ce qui n'est pas commun pour de la guitare, d'ailleurs. Voilà, donc très très belle fin d'après-midi. Hein, ce concert commence à 17h. Nouvel aperçu du programme que vont donner Marina Viotti et Gabriel Bianco dimanche 25 janvier, je le répète, à 17h à Saint-Pierre-des-Cuisines, avec cette fois-ci une interprétation d'Après un rêve, la mélodie composée par Gabriel Fauré sur un poème de Romain Bucine.
Tes yeux étaient
Après un rêve, la mélodie de Gabriel Fauré, chantée par Marina Viotti, accompagnée par la guitare de Gabriel Bianco, le duo se produit à Saint-Pierre-des-Cuisines, dimanche 25 janvier à 17h, dans le cadre de la saison Toulouse Guitare. Et un autre duo, piano-violon, celui-ci est en concert à la Halle au Grain, mardi 27 janvier à 20h. À l'invitation du cycle des grands interprètes, un duo de prestige formé par David Frey et Daniel Lozakovic, deux musiciens amis dans la vie qui aiment beaucoup jouer ensemble. Ils vont donner un programme de sonates de Bach et Beethoven.
Oui, exactement. Serge. Alors, Daniel Lozakovic, on le connaît bien à Toulouse. David Frey, évidemment, encore plus. Hein. Mais Daniel Lozakovic est venu faire ses débuts à Toulouse en 2017. Et j'avais noté à l'époque qu'il avait joué le poème pour violon et orchestre de Chausson. Et puis, il a également interprété le concerto de Max Bruch et également le deuxième concerto de Mendelssohn. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui connaît bien la Halle au Grain, qui connaît bien Toulouse.
Oui, encore un violoniste qu'on a connu très jeune. Vous parliez de Charles
absolument,
Hux, en première
absolument.
Partie de l'émission.
Oui, oui,
et
oui,
je
oui.
me demande s'il avait... Je suis même pas sûr qu'il avait 15 ans quand il est venu la première fois, Daniel Lozakovic.
Oui, peut-être pas. Hein. Là, donc, sachez que récemment, c'était en 2024, il a signé quand même un contrat d'exclusivité avec Warner Classics. Et puis, on nous signale qu'il joue un Stradivarius ex-Ivry Gitlis.
Oui, donc, qui avait été la propriété d'Ivry Gitlis.
D'Ivry Gitlis, et donc il lui est prêté par LVMH.
Les fondations qui prêtent,
oui, oui, Vuitton,
qui achètent des instruments,
etc.
Qui évidemment, vous vous en doutez, sont très onéreux. Tout le monde, un musicien ne peut
bien
pas se les payer seul. Et ils les mettent à disposition de grands solistes comme Daniel Lozakovic.
Oui, et puis David Frey, donc, lui, c'est un Tarbais bien connu. Il est né en 1981 à Tarbes. Bon, il a eu de nombreuses récompenses pendant sa carrière. Il a remporté de nombreux concours. Il a travaillé avec Jacques Rouvier.
Donc... Oui, ça a été vraiment son maître et mentor.
Exactement. Il a été nommé également jeune soliste de l'année, mais c'était en 2004. Et il dirige dans sa région de Tarbes un festival musical humaniste et solidaire à l'intention des personnes en situation de handicap qui s'appelle
l'offrande musicale.
Et donc, c'est une rencontre estivale qui est toujours de très belle qualité.
Ah oui, de très haut niveau avec des musiciens mondialement connus. Et les concerts ont lieu à Tarbes, mais aussi à Lourdes et autour, dans des églises des Hautes-Pyrénées. Ouais. David Frey est grand défenseur, grand amoureux et grand défenseur de sa région.
Exactement. Et donc, avec Daniel Lozakovic, ils vont jouer les sonates pour violon et piano, piano adapté évidemment, numéro 1 et numéro 3 de Bach, puisque à l'origine c'est pour clavecin. Et puis ensuite la sonate, la fameuse sonate pour violon et piano numéro 9, celle-là de Beethoven, la fameuse sonate à Kreutzer, qui occupera la deuxième partie de leur concert.
Voilà, David Frey et Daniel Lozakovic en concert, mardi 27 janvier à 20h, là à Halle au Grain, à l'invitation du cycle des grands interprètes. Oui. Enfin, dernier concert à vous annoncer dans cette émission. Pour la semaine prochaine, c'est un midi du Capitole, programmé le mercredi 28 janvier à midi et demi, à l'Opéra National du Capitole bien sûr, et il s'agit d'un récital donné par les grandes voix d'Afrique, Serge.
Exactement, et ces grandes voix d'Afrique, ce sont la soprano Elisabeth Moussou, issue du Cameroun, la mezzo-soprano Raphaël Green, qui est issue du Congo, et la basse Kofi Hayford, qui est issue du Ghana, et donc ces trois chanteurs seront accompagnés au piano par Thomas Taquet, et ils donneront un programme extrêmement ouvert, extrêmement divers.
Il y en a des choses, hein.
Ah oui, oui, oui. Avec du Puccini, du Mozart, du Léo Delibes, avec le fameux duo des fleurs, du Jacques Offenbach, du George Gershwin, et également du Myriam Makeba, et puis du Fadhili William, avec des traditionnels africains, spirituals en particulier. Donc ça sera vraiment un récital très intéressant que de retrouver ces trois chanteurs.
On va découvrir parce qu'à ma connaissance, aucun ne s'est produit jusqu'alors à Toulouse.
Non, exactement.
En tout cas, moi, ça ne me dit rien.
Et il y aura également des chansons donc, traditionnelles africaines avec un chant Swahili, Malaika notamment et un autre qui s'appelle Pata Pata.
Oui, voilà. Alors Elisabeth Moussou, elle est franco-camerounaise, soprano. Raphaël Green, mezzo-soprano, est belge. D'origine congolaise.
Oui.
Et puis donc la basse, Kofi Hayford, d'origine ghanéenne, mais il est aussi américain, de nationalité américaine. Donc vous voyez ce melting pot originaire donc d'Afrique à la base, et ce programme magnifique. Il y aura la rondinée, un extrait de la rondinée pour Puccini. Mozart, oui. Il y aura des extraits de l'enlèvement au sérail et de la clémence de Titus. Vous avez cité Léo Delisle, un extrait de l'Acmé, le fameux Via Malika, le duo des fleurs, que chanteront Elisabeth Moussous et Raphaël Green. Voilà. On aura un extrait des contes d'Hoffmann. Voilà. Nous aurons aussi deux extraits de Porgy and Bess de George Gershwin. Ça, c'est pour toute la partie classique. Et puis, il y a des choses qu'on va découvrir. Si, il y a un negro spiritual bien connu de Moses Hogan. Ah oui. Sometimes I feel like a motherless child. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent sans forcément connaître le titre. C'est un très, très joli programme. Donc, pour ce récital, Les Grandes Voix d'Afrique, le mercredi 28 janvier à 12h30 à l'Opéra National du Capitole. Et pour vous faire découvrir l'une de ses voix, j'ai choisi celle d'Elisabeth Moussous. Nous allons l'écouter chanter un des airs de la rondinée, qu'elle va d'ailleurs chanter lors de ce récital, extrait de l'opéra de Puccini, qui Bel sogno di Doretta. Qui bel sogno di Doretta, extrait de la rondinée, l'opéra de Giacomo Puccini, chanté par Elisabeth Moussous, une des chanteuses et un des airs, au programme du midi du Capitole, Les Grandes Voix d'Afrique, mercredi 28 janvier à 12h30. La billetterie pour ce récital est en ligne à l'adresse www.opéra.toulouse.fr. Pour le concert de l'Orchestre National du Capitole, mon ami Chosta avec Jean-François Zigel, samedi 24 janvier à 18h à la Halle au Grain. Les places sont à acheter et à réserver sur le site www.onct.toulouse.fr. Le même jour à 20h, mais à Saint-Pierre-des-Cuisines, la maîtrise de Toulouse donne son programme Songbook. L'entrée est gratuite sur réservation, mais le concert est hélas déjà annoncé complet. Au cas où, vous pouvez consulter le site www.maîtrisedetoulouse.fr. Le lendemain, dimanche 25 janvier à 17h, le duo formé par la mezzo-soprano Marina Viotti et le guitariste Gabriel Bianco est aussi en concert à Saint-Pierre-des-Cuisines à l'invitation de la saison Toulouse Guitare. billetterie en ligne à l'adresse www.toulouseguitare.fr. Et enfin, un autre duo, celui du pianiste David Frey et du violoniste Daniel Lozakovic, se produit à la Halle au Grain, mardi 27 janvier à 20h. Il va jouer un programme de sonates de Bach et Beethoven dans le cadre de la saison des grands interprètes. Réservation et achat des places sur le site www.grandsinterprètes.com. Merci à Serge Chosy qui a co-animé cette émission avec moi et à Yannick Galupini qui l'a réalisé. Le podcast est téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci bien sûr aux fidèles et aux nouveaux auditeurs de Mélomanie. Excellente semaine musicale à tous.